Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et aujourd'hui, on va écouter un petit peu moins de morceaux que d'habitude, mais deux morceaux de bravoure, je peux vous l'assurer. Et on va commencer sans plus attendre avec Jean-Sébastien Bach. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc je voulais partager avec vous un court extrait de la cantate BWV 97 in Allen Meinen Taten. Une cantate assez mystérieuse, on ne connaît que sa date de composition, 1734, et on ne sait pas à quelle occasion elle a été chantée. Il y a un indice, au-dessus du septième mouvement de cette cantate, et Bach a écrit après le mariage. Donc en fait, on peut penser que c'est une cantate qui a été écrite pour un mariage. Et comme les beaux jours commencent à arriver et que nous sommes dans la joie de Pâques, je me suis dit qu'il serait peut-être une bonne chose de vous donner un petit clin d'œil musical autour du mariage. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement le premier chœur de cette magnifique cantate, qui est assez particulier. Bach reprend dans le début de cette cantate une méthode qui s'appelle l'ouverture à la française, qui avait été extrêmement codifiée, notamment par Jean-Baptiste Lully, et dont Bach était extrêmement admiratif. Il faut savoir que Bach avait une culture musicale absolument phénoménale, il connaissait parfaitement la façon de faire en France, tant chez les organistes, par exemple il aimait beaucoup la musique de Marchand ou de Grigny, que effectivement chez les autres compositeurs. Et donc il y a ce clin d'œil à cette musique universelle qui se fait directement avec cette ouverture à la française. Alors c'est une séquence qui est fuguée, lent, rapide, il a déjà fait cette chose dans d'autres cantates là, et donc en fait il y a une section lente qui est notée grave, et après la section rapide qui laisse place aux voix qui vont laisser apparaître une fugue. Vous savez, la fugue, c'est cette espèce d'art Fuga, c'est la fuite en italien. Et donc, ça permet d'avoir les voix qui se poursuivent les unes après les autres. C'est très codifié. On parlera peut-être une autre fois des fugues, mais donc là, vous avez ces espèces de voix qui se courent après. Pas toutes cependant. La voix des sopranes, elle, se cantonne au cantus firmus, c'est-à-dire comme quand vous pensez à cette espèce de ligne mélodique qui déroule le texte. Et les voix de basse, quant à elles, font presque du colla parte, c'est-à-dire presque la voix instrumentale qui est doublée ici donc par les voix du chœur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, très polymorphe, non seulement dans la voix, mais également dans l'orchestre, vous allez l'entendre, et qui donne un aspect tout à fait festif. Alors en plus, Jean-Sébastien Bach donne ici libre cours à son talent pour parler de la joie. Il y a un côté dansant, un côté de grand mouvement qui se fait entendre, et qui est là aussi, ça donne toujours un indice sur le fait que ça puisse se faire lors d'un mariage. Eh bien, vous avez cette espèce d'entrée, de procession solennelle, grave, mais pas grave dans le sens triste du terme, mais dans le sens solennel. Et ensuite, vous avez cette fugue qui donne là libre cours à toute la joie que l'on peut avoir lors d'un mariage. Voici donc le premier mouvement de la cantate BWV 97 de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Magnifique début de cantate de Jean-Sébastien Bach, la cantate BWV 97. Naturellement, si cette ouverture et cette introduction vous ont plu, je vous invite à découvrir le reste de la cantate. Une petite merveille, je vous le garantis. Et maintenant, mesdames et messieurs, que nous avons écouté ce préambule à la joie du mariage et que je relie ici à la joie pascale, écoutez, je pense qu'il est temps d'écouter l'un des grands morceaux de bravoure, l'une des grandes pages de la musique qui concerne Pâques. En fait, il s'agit tout simplement d'un passage presque obligé. Il s'agit de l'offertoire du jour de Pâques, d'Extera Domini. Ici, c'est la version de César Franck, très très grand compositeur du 19e siècle. Il y a quelques litiges quant à sa nationalité. Est-il belge, est-il français? Moi, bien sûr, j'ai tranché. Il est français, bel et bien français. D'un point de vue musicologique, ça se défend d'ailleurs, puisque c'est lui qui va lancer toute la tradition organistique française, avec les gens qui vont le suivre. Hein. Il va y avoir Tournemire, il va y avoir ensuite, bien longtemps après, Dupré, Vidor, Vierne, etc. Mais donc, ça a été le début d'une grande lignée d'organistes à Paris. Lui, il était organiste à la basilique Sainte-Clotilde, et ça lui donner effectivement là aussi un devoir de composition liturgique. Donc c'est un grand compositeur, il a notamment été maître de composition d'un autre élève qui est resté fameux, Gabriel Fauré. Donc voyez quelqu'un qui a été capable de faire de très très belles choses, tant dans l'enseignement qu'à l'orgue, et bien entendu donc dans la composition. Le Dextera Domini, c'est une œuvre absolument fabuleuse, elle a été composée pour trois voix, orgue et violoncelle, et là dans la version que je vais vous présenter, qui est celle que j'ai enregistrée avec la Scola il y a de cela quelques années, on a choisi de faire une version qui était retranscrite pour quatre voix et pour orgue. Pourquoi trois voix? Eh bien, ça se faisait beaucoup à l'époque, notamment parce qu'il y avait des maîtrises dans les églises, et à ce moment-là, il y avait les deux voix principales qui étaient faites par les enfants et les voix plus graves qui étaient faites par un chœur d'hommes. Et donc là, c'était donc quelque chose de tout à fait naturel qui se faisait avec un morceau qui, là aussi, avait beaucoup de choses à dire dans son texte. Vous allez l'entendre, il commence avec les basses qui chantent le Dextera Domini. On sent qu'il y a une forme de joie sous-jacente qui est là, mais avec une forme de gravité, de la même manière que vous avez entendu chez Bach d'ailleurs, gravité en forme solennité. Et ensuite, vous allez entendre les voix qui vont commencer à se mélanger les unes des autres. Les basses vont laisser place aux altos et aux ténors, qui vont un petit peu se poursuivre, avec le thème qui, là aussi, continue à se développer très légèrement. Et après, l'orgue va là aussi rentrer de manière encore plus présente, et les sopranes vont rentrer avec l'intégralité du chœur, donc les quatre voix que vous allez entendre. Et là, véritablement, on est dans le thème et dans l'allégresse de la joie pascale. C'est quelque chose qui est assez monumental. C'est un morceau qui dure entre 9 et 14 minutes. Et c'est donc l'offertoire de Pâques, ça je vous le disais, donc ça installe quelque chose de tout à fait solennel. C'est un morceau qui est extrêmement intéressant, à plus d'un titre. Bon, déjà, musicalement, vous allez entendre, c'est une merveille absolue. Mais en plus, il y a des passages qui sont extrêmement ambivalents, notamment le thème qui va être transformé de majeur en mineur. Et ça, je trouve que c'est un tour de force assez spectaculaire parce que ça prouve qu'il y a quand même un mystère vis-à-vis de la résurrection. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant la résurrection, que d'abord les disciples ne comprennent pas, eh bien, il y a cette peur du corps qui a disparu, du corps supplicié. Et je trouve que c'est une manière extrêmement intelligente de la part du musicien de dire, écoutez, vous avez cette façon d'analyser la mort qui est, il y a la joie parce que le texte, et quelque chose de joyeux, à droite de Dieu, et en même temps, il y a cette part de souffrance humaine qui est retranscrite dans la musique. Ensuite, il y a plusieurs passages qui ont lieu avec des solistes, il y a trois solistes qui font là aussi de très très belles parties, et c'est quelque chose qui est assez merveilleux, parce que là encore, au niveau de la forme, César Franck va se régaler et nous offrir des choses vraiment très spectaculaires. C'est une œuvre un petit peu tiroir, où vous allez en ouvrir les unes après les autres. C'est comme s'il y avait plusieurs séquences qui se déroulaient, un petit peu comme si d'ailleurs on parlait de la vie du Christ. Et je vais terminer en parlant de la fin de cette œuvre, une fin là aussi absolument merveilleuse, qui se termine après beaucoup de choses solennelles. D'ailleurs, l'orgue qui va s'exprimer pleinement. Faut pas oublier qu'on est dans cette dynamique du 19e siècle avec un orgue dit symphonique, donc quelque chose qui est assez présent, qui remplace l'orchestre. Et alors, vous avez une fin qui, là, est absolument spectaculaire. Peu à peu, les chœurs vont devenir de moins en moins importants. Les nuances vont baisser. On va aller vers du pianissimo. Il va y avoir un jeu de questions-réponses avec l'orgue qui, lui aussi, va devenir de plus en plus taiseux. Et finalement, vous allez l'entendre, le mystère de Pâques va se faire dans le plus simple appareil, avec une forme presque d'évidence et de contemplation face à l'éternité qui se fait ressentir dans le dernier Alléluia final qui se pose comme une évidence, c'est un accord parfait qui se fait entendre, et l'orgue se tait. Comme si effectivement on rejoignait le cœur des anges, le cœur céleste, comme si on assistait à la montée du Christ au ciel. C'est ce que je trouve absolument passionnant dans cette version du Dextera Domini. Voici donc le Dextera Domini de César Franck par les chœurs de la Schola Cantorum. Vous allez entendre, c'est un pur chef-d'œuvre.
Thank you.
Dextera Domini de César Franck, une œuvre emblématique du jour de Pâques, puisqu'il s'agit de l'offertoire du jour de Pâques. Une très très belle œuvre, là aussi signée César Franck. Je vous invite à découvrir le reste des corpus des œuvres de César Franck, qui lui aussi a composé de grandes merveilles. Mesdames et messieurs, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous invite à rester à l'écoute de cette émission. La semaine prochaine, nous continuerons à évoquer d'autres œuvres qui évoquent la joie de Pâques. Très belle semaine à vous et à bientôt sur Point d'Orgue.